Chapitre 6. 1er mai. Ont-ils assez duré ces 4 jours, surtout le dernier? Enfin, voici midi moins 2. Dans 2 minutes, si l'enfant n'est pas en retard. Entrez. Il est midi, mon ami, viens-tu? C'est l'enfant. J'avais depuis 1 heure mon chapeau sur la tête, ma canne entre les jambes, et je feuilletais ma thèse avec des gants aux mains. Il se moque de moi, cela m'est bien égal. Nous partons à pied dans le jour limpide et chaud. Tout le monde est dehors. Qui donc pourrait rester chez soi un 1er mai? Autour du corps législatif, débouchant de toutes les rues voisines, les pelisses blanches des bébés étincellent et s'orientent vers les Tuileries. Lampron est d'humeur causante. Il est content de son exposition et de son plan d'attaque contre Mademoiselle Jeanne. Elle est sûrement prévenue, Fabien, rendue peut-être, qui sait? Plaisante, va, moque-toi. Oui, monsieur, il est très possible qu'elle y soit avant nous. J'en ai eu le pressentiment tous ces jours-ci. Vraiment? Je me la suis représentée 20 fois, montant l'escalier du palais de l'industrie au bras de son père. Nous sommes en bas, Sylvestre, perdus dans la foule. Son profil candide et fin s'enlève sur les tapisseries des gobelins qui l'encadrent de leurs fleurs, et l'on dirait quelque vierge du temps passé qui prend vie et qui sort de son panneau de haute lisse. « Messieurs, dit Lampron en faisant un geste circulaire qui s'adressait à toute la place de la Concorde, je vous présente le successeur éventuel de Maître Mouillard, avoué à Bourges. Un superbe tempérament d'homme d'affaires. Nous approchons. De toutes parts, des groupes s'acheminent vers l'exposition, les femmes en toilette claire, beaucoup d'hommes en veston, une main dans une poche, la canne haute et affleurant l'oreille, ce qui signifie « riche, encore gaillard et sorti par un beau temps ». Les tourniquets sont encombrés. J'entre enfin. Nous ne faisons que traverser le jardin sablé du bas, domaine de la sculpture, où tant de dieux antiques, dans toutes les postures, enserrent de leurs couronnes mythologiques les bustes modernes placés dans l'allée centrale. Passons, là n'est pas mon cœur. Nous saluons du regard un vieux Gaulois blessé, ancêtre peu entouré, et nous montons l'escalier, où Jeanne ne nous précède pas. Voici la première salle de peinture. Sylvestre rayonne, il est chez lui. Vite, Sylvestre, où est le dessin? Allons-y vite. Mais il m'entraîne avec lui et nous visitons plusieurs salles. Avez-vous éprouvé cette ivresse de la couleur qui s'empare des profanes au seuil d'un musée? Tant de rayons arrivent aux yeux, tant de pensées s'ébauchent et se heurtent dans l'esprit que les yeux se fatiguent et que l'esprit se trouble. Il flotte sans se poser, comme un insecte sur un pré tout en fleurs. La foule qui bourdonne et se mêle ajoute à cette griserie. Elle distrait l'attention qui commençait à se fixer et l'emporte avec elle, là où elle s'assemble, séduite par un nom, par un cadre, par la dimension d'une toile, par une violence quelconque. Un fond jaune, une vingtaine de pendus avec autant de corbeaux, un vieillard préhistorique, affreux chasseur tout nu, armé d'une canne plombée. On se détourne et la lutte reprend entre l'œil attiré par 100 choses et l'esprit qui voudrait voir quelque chose. Avec Lampron, ce danger n'existe pas. D'un regard, il parcourt la salle. Il a l'œil du chasseur qui, dans un vol de perdreau, choisit du premier coup sa proie. Il n'hésite pas. C'est là qu'il faut aller, viens. Et nous allons. Il se plante tout droit devant la toile, les 2 mains dans son pardessus, le menton rentré dans son faux col. Il ne dit rien, mais il est content. Il s'imprègne d'une pensée qu'il a saisie de loin. Il compare l'heure nouvelle du peintre avec une œuvre ancienne dont il se souvient. Toute son âme est attachée là. Et quand il juge que j'ai tout compris et tout pénétré, il indique son sentiment d'un mot toujours juste, résumé d'une longue suite d'idées que j'ai dû partager, puisque j'ai vu comme lui. Enfin, nous sortons des salles de peinture. Dans la galerie ouverte, qui flanque intérieurement ce vaste quadrilatère et domine le jardin, dorment, bien délaissés, les aquarelles, les gravures, les dessins. Lampron va droit à ses œuvres. Je leur donnerai la médaille d'honneur. un portrait d'homme à l'eau-forte, une grande gravure au burin, la Vierge à l'étang Jésus, du salon carré au Louvre, et le dessin qui représente... Mon Dieu, quelle est charmante, Sylvestre! Et qu'elle aurait grand tort de ne pas venir se voir! Elle viendra, mon ami, mais je ne serai plus là. Tu me quittes? Je te laisse à ton affût. Sois patient et ne manque pas ce soir de me donner des nouvelles. Je te le promets. Et l'emprunt disparaît. Le dessin était placé à égale distance, à peu près de deux ouvertures garnies de portières, communiquant avec des salles de peinture. Je m'appuyai dans l'encadrement d'une de ces portes et j'attendis. À ma gauche, j'avais un véritable désert. C'est à peine si, de temps à autre, quelques visiteurs se hasardaient dans le royaume des deux crayons. Encore n'y venaient-ils que pour respirer l'air plus frais ou regarder, par-dessus la balustrade, la multitude bariolée qui s'agitait en bas autour des statues blanches. À droite, au contraire, passaient et repassaient les courants emmêlés de la foule où l'élément provincial se distinguait sans peine à l'évidente fatigue du maintien. Les grosses mamans lasses et les pères essoufflés encombraient les banquettes, levant vers les murailles un regard découragé, tandis que, autour d'eux, glissaient et tournaient, infatigables comme au bal, des légions de parisiennes, bien campées sur leurs talons hauts, également attentives aux tableaux, à la cambrure de leur taille et aux toilettes des femmes. Ô gardien, gens paisibles qui avaient la police de ce tourbillon, si l'incessant glissement de ces vagues humaines n'éteint pas en vous tout sentiment de la réalité, que de sottises vous devez entendre! En un quart d'heure, j'en ai recueilli plus de 20. Tout à coup, de petits pas dans la galerie. Ce sont deux jeunes filles toutes jeunes qui viennent d'entrer, deux sœurs sans doute, car elles ont les mêmes yeux noirs, deux robes roses et deux plumes blanches à leur chapeau. Hésitantes, le cou tendu comme des chevrettes au bord d'une clairière, elles paraissent désappointées par le développement inattendu des galeries. Elles se regardent et chuchotent. L'une sourit, l'autre de même. Elles se tournent le dos. Puis elles partent, l'une à droite, l'autre à gauche, pour examiner les dessins qui couvrent les murs. Examen sommaire qui n'a sûrement pas l'art pour mobile. Elles cherchent quelque chose et j'imagine que ce pourrait bien être le portrait de Jeanne. En effet, celle qui vient de mon côté s'arrête bientôt, étend le doigt vers la muraille, pousse un petit cri. L'autre accourt. Elles battent des mains. « Bravo! Bravo !» Et les voilà reparties, disparues par la porte là-bas. Ce qu'elles vont faire, je le devine. Je tremble de la tête aux pieds et je me dissimule davantage derrière la portière. Une minute à peine et elles reviennent, non plus deux, mais trois, et la troisième, c'est Jeanne, qu'elles entraînent chacune par une main. Elles l'amènent jusqu'auprès du dessin de l'emprun et gentiment lui font la révérence. Jeanne se penche, elle sourit, elle semble approuver. Puis un doute la prend, elle tourne la tête et m'aperçoit. Le sourire tombe, elle rougit, on dirait même qu'une larme va poindre au coin de ses yeux. Quel bonheur! Jeanne, vous êtes émue! Jeanne, vous avez compris! Une joie profonde me traverse l'âme, si profonde que jamais je n'en éprouvais une semblable. Hélas, au même moment, quelqu'un appelle. Jeanne! Elle se redresse, prend les deux petites par la main et s'en va. Oh, que j'eusse mieux fait de m'enfuir aussi, d'emporter cette illusion radieuse! Mais non, je me penche pour les suivre du regard. Dans l'embrasure de la porte, là-bas, j'aperçois M. Charnot. Un jeune homme est près de lui. Il s'adresse à Jeanne, elle lui a répondu, quelques mots viennent jusqu'à moi. « Ce n'est rien, Georges !»« Malédiction, elle en aime un autre !» 2 mai. Dans quelle disposition d'esprit je suis parti ce matin pour soutenir ma thèse ? Abattu, brisé par une nuit de larmes, indifférent à tout ce qui pouvait m'arriver d'heureux ou de fâcheux. Je me croyais, et je l'étais, en effet, bien malheureux. Mais je ne me doutais pas que je dusse revenir plus triste et plus malheureuse encore. Il faisait un temps splendide à 11h30 quand je pris le chemin de l'école de droit, ma thèse annotée sous le bras, plus préoccupé de mes regrets et des projets au milieu desquels je m'étais toute la nuit débattu que de l'épreuve que j'allais subir. Je rencontrai dans le Luxembourg la petite que j'avais embrassée la semaine dernière. Elle arrêta son cerceau pour se planter sur ma route, ébouriffée, les yeux grands ouverts, avec un air câlin et malin qui voulait dire « Je vous reconnais, vous !» Je passai stupide. Elle fit la moue et je vis qu'elle pensait « Qu'est-ce qu'il a donc ?» « Ce qu'il a, ma pauvre petite blondinette, quand vous serez grande et blonde, je vous souhaite de n'en rien savoir, pas plus qu'aujourd'hui. » Je montai la rue Soufflot et j'entrai, à midi, dans la cour étouffée de la faculté. Les cours du matin sont finis. Sous les arcades, quelques rares étudiants se promènent. Je les évite, de peur de découvrir des camarades parmi eux et d'être obligé de causer. Plusieurs professeurs accourent, un peu rouges, sortant de table aux convocations du secrétaire. Ce sont mes examinateurs. Il est temps d'aller faire ma toilette, car il y a la toilette du candidat comme il y a celle du condamné. Le vieil appariteur qui m'a vêtu de ses toges de location, je ne sais combien de fois, me voyant triste, s'imagine que je souffre du mal d'examen, une maladie à part qui ressemble à celle du jeune soldat au premier feu. Nous sommes seuls dans la garde-robe obscure. Il tourne autour de moi et m'encourage en me brossant. Les docteurs ont un droit moral à ce coup de brosse. « Ça va très bien aller, monsieur Mouillard. Ne craignez pas, nous n'avons refusé personne ce matin. » « Je n'ai pas peur, père Michu. » Quand je dis personne, il y en a eu un pourtant de refusé, une histoire impayable. Figurez-vous, tournez-vous un peu, monsieur Mouillard, s'il vous plaît. Figurez-vous un candidat qui ne savait rien du tout. Nous voyons cela souvent. Mais voilà que, à la fin de l'examen, il se recommande au jury. Soyez indulgent, qui dit, messieurs, je ne veux être que juge de paix. Elle est bien bonne, hein ? « Mais oui. Comme vous dites ça, vous n'avez pas envie de rire ce matin ?»« Non, père Michu, chacun a ses peines, vous savez. » Je me disais, en vous regardant tout à l'heure, « Il a une peine, monsieur Mouillard. » »« Boutonnons jusqu'au bas, s'il vous plaît. Pour une thèse de doctorat, songez donc, monsieur Mouillard. »« Une peine de cœur, alors ?»« Peut-être. » Il cligna ses petits yeux et mit ses mains en cornet. « But, but, faut en changer, monsieur Mouillard, ce n'est pas malin. »« De cœur, père Michu. » Il leva les épaules et me précéda, luttant contre le fou rire et contre un accès d'asthme, jusqu'à la salle désignée pour la soutenance de ma thèse. C'était la plus petite et la plus sombre de toutes. Elle prend son jour sur une rue qui n'en a guère et n'en donne que le moins qu'elle peut. À gauche, le long du mur, est une chaire pour le candidat. Au fond, sur une estrade et devant un bureau, siègent les six examinateurs en robe rouge, épitoges à triple rang d'hermine et toques à ruban d'or. Entre la chaire et la porte, un petit parc à spectateurs. Ils étaient une trentaine quand j'entrais. Ma soutenance, qui aurait pu être brillante, a été quelconque. Les trois premiers de mes juges avaient lu ma thèse, l'excellent M. Flammarant surtout. Il la possédait, il en avait goûté les hardiesses et les nouveautés. Au moment de poser sa première question, il eut une moue préparatoire, un mouvement de gourmet qui suce un fruit mûr. Et quand il voulut bien ouvrir la bouche, dans le silence de tous, ce fut pour emporter tout de suite la discussion à de telles hauteurs d'abstraction qu'un certain nombre d'auditeurs, n'y comprenant rien, gagnèrent furtivement la porte. Chaque réponse l'animait. « Très bien, » murmurait-il. « Très bien, poursuivons. Je suppose, à présent... » Et le démon de la logique le talonnant, nous tombâmes tous deux en pleine folie dans un monde d'hypothèses où nul n'avait pénétré. Il n'examinait plus, il inventait, il se grisait de déductions. Personne n'avait raison et personne n'avait tort. Nous raisonnions sur des chimères, lui radieux, moi sans flamme, devant ses collègues doucement hilares. Je n'ai jamais si bien compris qu'en ce moment tout ce qu'il peut y avoir d'imagination dans une tête de juriste. Il me marqua une blanche, tout en sueur, ayant dépassé de 10 minutes le temps réglementaire de l'interrogatoire. Le second juge fut moins ardent. Il supposa peu et mit tout son art à me convaincre d'une contradiction entre la page 17 et la page 79. Il ne cessa de répéter « C'est grave, monsieur, c'est très grave !» Il me gratifia néanmoins d'une seconde blanche. Je n'eus qu'une blanche rouge pour le troisième. Le reste de l'examen porta sur quelques positions étrangères à mes sujets de thèse, lutte banale où je répondis par des arguments bien usés à des objections bien fanées. Et ce fut fini. 2 heures avaient fui. Je sortis de la salle pendant que mes examinateurs délibéraient. Quelques amis vinrent à moi. « Mes compliments, cher, je parie pour 6 blanches. »« Ma foi, l'arrivée, je ne t'avais pas aperçu. »« Je crois bien, tu n'as regardé personne. Tu as encore l'air tout chose. Est-ce l'émotion inséparable ?»« Peut-être. » »« Le candidat est invité à rentrer dans la salle d'examen, » dit la pariteur. Et le père Michu ajouta tout bas, « Vous êtes reçu, je vous le disais bien. N'oubliez pas le père Michu, s'il vous plaît. » M. Flammarant me proclama docteur avec un sourire paternel et un mot d'éloge pour ce travail consciencieux, plein de vues nouvelles sur un sujet délicat. Je saluai mes juges. L'arrivée m'attendait dans la cour et, me prenant par le bras, « Papa Mouillard va être content. »« Oui, plus content que toi. »« C'est bien possible. » »« Et ce n'est pas difficile. Tu es incroyable, vraiment. » Depuis 2 ans que tu as travaillé comme un sang de nègre pour être docteur, et à présent que tu es reçu, on dirait que tu n'y tenais pas. Tu as obtenu un sourire de Flammarant, et tu ne te considères pas comme un privilégié du sort. Que te faudrait-il donc? Espérais-tu que Mademoiselle Charnot viendrait en personne? Oh, l'arrivée! Assister à ton examen et applaudir de ses fines mains gantées les réponses de monsieur aux objections de ses juges? « Tu sais pourtant que ça n'est plus possible, mon bonhomme, et qu'elle se marie. »« Elle se marie ? Fais donc l'ignorant. » !»« Je m'en doutais depuis hier. Je l'ai rencontrée au salon et j'ai vu près d'elle un jeune homme. »« Blond ? Oui. Gros ? Peut-être. Assez joli garçon ? Je ne sais pas. »« Du filleul, mon bonhomme, l'ami du filleul. Tu ne connais pas du filleul ? Non. » « Mais si, un quart d'agent de change, très fort à l'écarter, qui a fait son droit avec nous, qu'on rencontre toujours à l'opéra, avec la petite tigre des bouffes. Pauvre fille, tu la plains? C'est affreux. Quoi donc? De voir une malheureuse enfant épouser un viveur. Elle ne sera pas la première. Un joueur. Oh, pour ça, oui. » Un sot, selon toute apparence, qui, en échange de tant de grâce, de jeunesse et de charme, ne lui apportera qu'une collection de ruines en tout genre. Ah, les pauvres jeunes filles! Sont-elles assez dupées, trompées, victimes de leur propre vertu qui leur fait croire à celle des autres? Es-tu drôle? Mais c'est le train de la vie! Si les innocences à marier ne devaient épouser que d'autres vertus masculines, sous la tutelle de vertueux parents, le monde serait près de finir, mon cher. Je t'assure que Dufilleul est un bon parti. Joli garçon, d'abord. La belle garantie. Riche, parbleu. Et puis, un nom qui se coupe. Qui se coupe? Avec une facilité merveilleuse. C'est extrêmement recherché. En se mariant, on s'appelle Monsieur Dufilleul. Un an après, on est baron. À la mort du père, un vieux rustre, on devient comte. Pour peu que la jeune femme soit jolie et tourmente un peu son mari, elle a des chances de passer marquise. Ah ! Tu es sombre, mon pauvre Mouillard. Je t'offre une absinthe, le seul breuvage qui réponde à l'amertume de ton cœur. Non, je rentre. Tu n'as pas le doctorat jovial. Adieu. Adieu. Il tourna sur ses talons et descendit le boulevard Saint-Michel. Ainsi donc, tout est fini pour elle et pour moi, bien fini, et le plus triste, c'est qu'elle est encore plus à plaindre que moi. Pauvre fille, je l'ai aimée beaucoup, mais gauchement, comme je fais toute chose, sans savoir le dire à temps. La muette déclaration que j'ai risquée, ou plutôt qu'un ami a risquée pour moi, la trouver fiancée à ce butor qui s'y est pris plus adroitement, qui n'a rien taché à la Bibliothèque nationale, qui aurait dû tout craindre et qui a tout osé. Je m'étais laissé prendre à cette sorcellerie virginale. Toute la faute, toute l'imprudence est à moi. Elle n'a rien encouragé, rien approuvé. À Saint-Germain, si elle a souri, c'est qu'elle était surprise et flattée. Au salon, si elle a failli pleurer, c'est qu'elle avait pitié de moi. Je n'ai pas l'ombre d'un reproche à lui faire. C'est tout ce que j'aurai d'elle, une larme, un sourire.
Tout.
Eh bien, j'en vivrai. Elle a eu mon premier amour et je lui garderai dans mon souvenir une place d'où nul autre ne la chassera. Je vais maintenant travailler à fermer ce pauvre cœur qui a eu le tort de s'ouvrir. Je devrais être heureux ce soir et tout pleure en moi. Il me semble que je comprendrai mieux Sylvestre désormais. Nos douleurs nous rapprocheront. J'irai le voir tout à l'heure et je lui dirai cela. Auparavant, j'écrirai à mon oncle pour lui apprendre que son neveu est docteur. Quant au reste, projet, avenir, ce sera pour demain, pour après-demain, à moins que je ne me dégoûte tout à fait de penser à ces choses et que je ne prenne la vie au présent de l'indicatif. Je m'y sens fortement enclin. 4 mai. Lampron est parti pour la province. Il doit passer une quinzaine dans l'ermitage d'un vieux parent où il se retire quand il a besoin d'achever une gravure. Mais Madame Lampron était là. Après un peu d'hésitation, je lui ai tout dit et je m'en félicite. Elle a, dans son cœur de simple et honnête femme, trouvé les mots et les conseils qu'il fallait. On sent qu'elle a beaucoup consolé dans sa vie. Elle a le secret de cet art féminin qui est la grande revanche de la faiblesse. Faibles, les femmes le sont peut-être, mais moins que nous qui sommes forts, puisqu'elles nous relèvent. Elle m'appelait mon bon monsieur Fabien, et rien que de la façon dont elle me disait cela, me pénétrait doucement. Je la croyais bornée, elle ne l'est point. Elle n'est qu'illettrée, ce qui peut s'allier à toutes les délicatesses et à toutes les sublimités. Nul ne lui a appris certaines manières de s'exprimer qu'elle a employées. « Si votre mère vivait encore, disait-elle, voici comment elle vous parlerait. » Et elle me parlait de Dieu qui seul résout l'épreuve, ou par le dénouement qu'il ourdit, ou par la résignation qu'il inspire. Je me sentais monter avec elle dans les régions où nos chagrins diminuent, parce que les horizons grandissent autour d'eux. Et je me souviens qu'elle a eu cette pensée superbe. « Voyez mon fils comme il a souffert !» C'est à croire, monsieur Fabien, que les meilleurs en ce monde sont les plus éprouvés, comme les pierres qui doivent faire le haut de l'édifice sont plus fouillées que les autres. Je suis revenu de chez madame Lampron, moins aigri, plus calme, plus sage. 5 mai. Lettre fulminante de monsieur Mouillard. Si je n'étais pas si triste, j'en rirais. Il aurait voulu que, docteur à 2 heures de l'après-midi, je prisse le soir même le train pour Bourges, où m'attendent mon oncle et l'étude et le bonheur provincial. Les amis de M. Mouillard étaient prévenus, on fut venu me serrer la main à la gare. Bref, je suis un ingrat. Tout au moins, devais-je indiquer la date prochaine de mon arrivée, car il ne se peut pas que je demeure encore dans la capitale, étant libre de la quitter. Mais non, pas une indication, pas une promesse de retour, la simple annonce d'un examen heureux. Cela passe les bornes de l'étourderie et de l'indifférence. M. Mouillat, bouleversé dans ses notions les plus élémentaires de la vie, termine par ces mots. « Fabien, il y a longtemps que je m'en doute. Tu as une chaîne et j'accours pour la rompre. » Brutus Mouillard. « Je le connais, il sera ici demain. » 6 mai. « Eh bien non, pas d'oncle. » 7 mai. Pas plus d'oncle qu'hier. 8 mai. Continuation de l'éclipse totale. Aucune nouvelle de M. Mouillard. C'est tout à fait étrange. 9 mai. Ce soir, à 7 heures, au moment où je sortais de chez moi pour aller dîner, j'aperçois à 20 pas un chapeau haut de forme à large bord, coiffant des cheveux blancs en brosse, un long cou serré d'une cravate blanche, une redingote déboutonnée battant 2 jambes maigres. Je m'écrie « Mon oncle !» Il m'ouvre ses 2 bras. J'y tombe et la première chose qu'il me dit, c'est « Tu n'as pas dîné au moins ?»« Non, mon oncle. Alors, chez Foyot. » S'attendre à voir un homme en colère et s'entendre inviter à dîner, cela cause une impression singulière, presque une déception. Car on est monté, on a ses arguments tout prêts, sa provision d'impertinence en poche, autant de bagages à la consigne. Je lui dis, quand j'eus repris mes sens, « Je supposais, d'après votre lettre, mon oncle, que vous arriveriez plus tôt. »« Et tu supposais bien, il y a 2 jours que je suis à Paris, au Grand Hôtel. » Je suis descendu là pour la salle à manger dont mon ami Hublette, tu sais bien, Hublette de Bourges, m'avait dit « Mouillard, il faut voir cela avant de céder votre étude. Si je l'avais su, mon oncle, je serais allé vous demander. Tu ne m'aurais pas trouvé. Les affaires avant tout, Fabien. J'avais 3 avoués, 5 notaires à voir. Tu comprends que ces choses-là n'attendent pas. Je les ai vues. Après les affaires, les sentiments. Me voilà. » « Cela te va-t-il, Foyot ? En avant, marche, mon neveu ! Ça ragaillardit, ce Paris !» Il avait l'air tout gaillard, en effet, mon oncle Mouillard, aussi gaillard que provincial. Sa haute taille et sa redingote à la propriétaire faisaient retourner les passants blasés sur tant de singularités. Il frappait de sa canne le pavage en bois, admirait la philanthropie de Wallace, s'arrêtant devant les plans émaillés des rues et s'extasiait sur le mouvement de la rue de Vaugirard. Le menu fut excellent et tel qu'un oncle généreux pourrait en composer pour un neveu sans reproche. M. Mouillard, qui a une vieille passion pour le Chambertin, en fit apporter 2 bouteilles tout d'abord. Il but la première et une partie de la seconde, mangeant à proportion et sans cesser de parler très haut et très ferme, selon sa coutume. Il me raconta 2 de ses belles affaires de l'année, une séparation de corps, mon oncle est terrible dans ces affaires-là, et un enlèvement de mineur. Je crus d'abord à une allusion. Mais non, il racontait le drame en pure dilettante, sans omettre un jugement préparatoire, ni un délibéré sur le siège, comme il eût raconté le cas d'Hélène de Paris, s'il avait occupé dans cette célèbre affaire. Pas un mot sur moi. J'attendais. Rien ne venait que la suite des procédures accomplies. Après le parfait glacé, M. Mouillard demanda un cigare. « Quels cigares avez-vous, garçon ?»« Londres, Conchas, Regalias, Casadores, Partagas, Exceptionales. »« Monsieur Désir ?»« Le nom m'est égal, un gros, long à fumer. » Émile découvrit, dans un fond de boîte, une sorte de quenouille de roseau avec une paille au milieu, cigare d'exposition internationale sans doute, abandonné de tous à cause de ses dimensions. Mon oncle le prit, l'emmancha dans le bout d'ambre vert que je lui ai toujours connu, l'alluma, et, sous prétexte qu'il faut, en commençant, égaliser la combustion du tabac, sortit en laissant derrière lui le sillage de fumée d'une canonnière à vapeur. Nous fîmes le tour des galeries de l'Odéon, où mon oncle s'éternisa à feuilleter les livres. Il les prenait tous, les uns après les autres, depuis les poésies des décadents jusqu'à l'hygiène du cheval, regardait d'abord le nom, haussait les épaules et se tournait invariablement vers moi. « Tu connais ça, toi ?»« Oui, mon oncle. Ça doit être un tout jeune auteur. Je ne me rappelle pas ce nom-là. » M. Mouillard oubliait que 45 ans le séparaient de sa dernière visite au libraire de l'Odéon. Il se retrouvait étudiant, flânant sous les galeries au sortir de table, curieux des nouveautés et insouciant des courants d'air. Peu à peu, il s'égara en des rêves lointains. Son cigare ne quittait plus ses lèvres. La cendre, en s'allongeant démesurément, une belle cendre blanche, légèrement tuméfiée à l'extrémité, striée de petits points noirs, et que reliait au cigare un bourrelet rouge, tantôt ardent, tantôt sombre, selon les alternatives de la respiration. M. Mouillard était tellement immobile et la cendre devenait si longue qu'un étudiant tout jeune, cet âge est sans pitié, remarqua cette double singularité. Je le vis pousser du coude son camarade, rouler en hâte une cigarette et, le chapeau à la main, s'approcher de mon oncle. « Seriez-vous assez bon pour me donner du feu, monsieur ?» M. Mouillard soupira, se détourna avec lenteur, fixa sur l'importune 2 yeux terribles, secoua la cendre d'un geste de colère et, présentant à bout de bras le tison enflammé, « Avec plaisir, monsieur !» Puis il remit son dernier livre, un musset, et m'appela. « Viens, Fabien !» Il me prit le bras et nous nous mîmes à arpenter la rue de Médicis le long de la grille du Luxembourg. Je sentais que le grand moment allait sonner. Mon oncle a une maxime à laquelle il est très fidèle. Quand une chose n'est pas claire, je fonce dessus tout droit comme un tapir. Le tapir s'ébranla. « Et ta chaîne, Fabien, j'ai deviné juste ?»« Oui, mon oncle, j'en avais une. »« C'est bien d'avouer, mon garçon, mais il faut rompre. » »« Elle est rompue. »« Depuis quand ?»« Depuis plusieurs jours. »« Ta parole d'honneur ?»« Oui. » »« Voilà qui est très bien, mon neveu. Tu aurais mieux fait de ne pas te laisser enchaîner. Mais enfin, tu reçois le conseil de ton oncle, tu vois l'abîme et tu recules, c'est très bien. » « Mon oncle, je ne veux pas vous tromper. Votre lettre n'est arrivée qu'après. La cause est tout autre. »« Et c'est ?»« Que l'illusion où j'étais s'est tout à coup dissipée. »« Il a encore des illusions sur ces créatures-là. »« Une créature exquise et digne de tous les hommages, mon oncle. »« Allons donc. »« N'en doutez pas, je vous prie. Je la croyais libre. »« Et elle était ?»« Fiancée. »« Ça, c'est drôle, par exemple. » « Je ne l'ai pas trouvé, mon oncle, et j'ai souffert cruellement, je vous assure. »« sans doute, l'illusion, comme tu dis. Enfin, tout est fini ?»« Absolument. Puisqu'il en est ainsi, Fabien, je veux t'aider. Parle-moi franchement. Combien te faut-il ?»« Combien ? Oui, tu as besoin peut-être de régler une situation, tu me comprends à demi-mot, n'est-ce pas ? D'acheter ce que j'appellerais le voile de l'oubli. » « Combien te faut-il ? » ?»« Mais rien, mon oncle. » »« Voyons, Fabien, j'ai apporté les fonds. » »« Vous vous méprenez, mon oncle. L'argent n'a que faire ici. Je vous répète qu'il s'agit d'une jeune fille, d'une honorabilité parfaite. » »« Une drôlesse, que diable ! Je ne peux pas dire autrement, moi, une drôlesse. » »« Mais non, mon oncle, je vous parle de mademoiselle Jeanne Charnot. » »« Ça se peut. Fille d'un membre de l'Institut. » »« Oh ! » Mon oncle eut un haut-le-corps et s'arrêta. « Oui, de mademoiselle Charnot, que j'aimais pour l'épouser, pour en faire ma femme, comprenez-vous » Il se rejeta le long de la grille et croisa les bras. « Ta femme ? Je n'y étais pas du tout. Ta femme pour te marier ? Eh oui, qu'avez-vous ? Ta femme ? Ta femme ? On n'a pas idée de cela, vraiment. Les choses les plus graves se passaient ici et je n'en savais rien. Ta femme ? Tu aurais pu m'annoncer ton mariage aujourd'hui, si par bonheur. Enfin, es-tu bien sûr qu'elle soit fiancée ? L'arrivée me l'a dit. Qui ça, l'arrivée ? Un camarade. Ah, c'est seulement par un camarade que tu sais cela ? Oui, vous croyez donc que je peux encore douter, mon oncle, qu'il y a une chance ? Non, non, je ne doute pas. Elle doit être fiancée, très fiancée. J'en suis même enchantée. « Ce n'est pas à Paris que les mouillards prennent leurs épouses, Fabien. Ce n'est pas une Parisienne qu'il nous faut pour perpétuer les traditions de la famille et de l'étude. »« Une Parisienne ! Quand j'y pense, j'en ai le frisson. »« Fabien, tu pars demain avec moi, n'est-ce pas ?»« Sûrement non, mon oncle. »« Parce que ?»« Parce que je ne puis quitter mes amis sans leur dire adieu et que j'ai besoin de réflexion avant d'engager définitivement ma vie à la procédure civile. » « De réflexion ? Tu as besoin de réflexion pour prendre une charge héréditaire qui t'est destinée depuis ton enfance, en vue de laquelle tu as travaillé 5 ans, que je t'ai conservé, moi, mouillard, comme si tu avais été mon fils ?»« Oui, mon oncle. » »« Laisse donc, on réfléchit à Bourges aussi bien qu'ici. Tu veux rester pour la revoir ?»« Non. » »« Pour aller errer, comme une âme en peine, dans le quartier qu'elle habite ? Où habite-t-elle ? » Rue de l'Université. Mon oncle prit son carnet et nota « Charnot, rue de l'Université ». Puis toute sa physionomie se détendit. Il eut un ricanement dont j'avais souvent deviné le sens aux audiences de Bourges et qui signifiait « L'affaire est dans le sac, le père Mouillard tient son homme ». Mon oncle, en remettant le crayon dans sa gaine et le calepin dans sa poche, ajouta simplement « Tu déraisonnes ce soir, Fabien ». Nous recoserons de cela. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est très commode ces allers-retours. Je ne partirai que demain soir et avec toi, mon garçon, je t'en réponds. M. Mouillard ne causa plus que de choses indifférentes pendant le court trajet de la rue Soufflot à la station d'omnibus de l'Odéon. Là, il me serra la main et sauta lestement dans l'intérieur de la première voiture. Une dame en noir, la voilette serrée sur un petit nez impertinent, voyant mon oncle entrer comme une bombe et s'asseoir près d'elle, rangea vivement les plis de sa robe étalée sur la banquette. Mon oncle remarqua le geste. Il craignit d'avoir été impoli et se penchant vers elle avec un air aimable. « Rassurez-vous, madame, je ne vais pas jusqu'aux Batignolles. Je m'arrête au boulevard. Quelques minutes de gêne seulement, madame, quelques minutes. » J'eus le temps de constater que la dame, ayant jeté sur son voisin le regard le plus olympien qu'elle eût à sa disposition, s'était détournée et fixait obstinément les courroies du plafond. La chaîne du timon tomba, le conducteur siffla, les trois chevaux, martelant le pavé de leurs sabots, se démenèrent un instant parmi des fusées d'étincelles et le long véhicule s'éloigna de la rue de Vaugirard, emportant mon oncle et ses projets.